Il est 9h à Paris, 8h en temps universel et à Abidjan. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue à suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions sur la reconfiguration du dispositif militaire français sur le continent africain. Nous sommes à 1h de la rétrocession de la base de Port-Boué en Côte d'Ivoire, mais d'abord le journal. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Les corps de 4 otages israéliens exposés à Ran Younes, des dépouilles qui doivent être remises à leur famille dans le cadre de l'accord de trêve. Nous serons sur la place des otages de Tel Aviv dans un instant. Le M23 poursuit son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo, percé en direction de la ville d'Uvira, dans le sud Kivu. Une offensive que peine à juguler la communauté internationale. Prison à vie ou peine de mort, c'est ce que risque le président sud-coréen déchu dans son procès pour insurrection qui s'est ouvert dans la nuit. Yoon Suk-yeol assure avoir voulu éviter une dictature législative. Et puis la contre-attaque de l'ex-président brésilien, lui aussi mis en cause par la justice pour tentative de coup d'État en 2022. Jair Bolsonaro dénonce un régime autoritaire. Ses avocats évoquent une procédure scandaleuse. Et on prend donc tout de suite la direction de la place des otages de Tel Aviv où on vous retrouve. Pierre-Olivier, bonjour. Les soutiens des familles commencent à arriver alors que la remise des corps des personnes kidnappées le 7 octobre et décédées à Gaza vient de commencer.
Oui, tout un petit groupe s'est mis à chanter, accompagné à la guitare alors que la remise de ces 4 corps commençait tout juste ici. Pas d'écran géant pour retransmettre cette remise des corps. Alors, évidemment, pas à la joie. Alors, c'est sur les téléphones portables que certains suivent en groupe cette remise. Le Hamas qui a mis en scène une fois de plus ce moment sur une estrade à Ran Younes dans la bande de Gaza. 4 cercueils noirs de la même taille ont été disposés au pied d'une affiche représentant un Benjamin Netanyahou avec des dents de vampire dégoulinantes de sang. Voilà pour la mise en scène. Les 4 cercueils qui ont ensuite été chargés dans des véhicules de la Croix-Rouge. Une cérémonie religieuse avec le rabbin de l'armée israélienne devrait avoir lieu dans les minutes qui suivent. Et puis les dépouilles seront ensuite emmenées à l'Institut médico-légal de Tel Aviv pour une identification formelle des corps, et ce n'est qu'après, dans une poignée d'heures maintenant, que les noms des 4 personnes mortes seront confirmés, même si ici personne ne se fait d'illusions sur leurs identités et que les larmes coulent déjà sur les visages, même si la musique ici continue.
Pierre-Olivier, en direct de Tel Aviv, on rappelle que 6 otages en vie doivent être libérés samedi en échange de prisonniers palestiniens et de l'entrée dans l'enclave de matériel de déblayage lourd. Le Sud Kivu, toujours confronté aux avancées du M23. Le groupe soutenu par le Rwanda s'approche de la ville d'Uvira, deuxième plus grande agglomération de la province de l'Est de la République démocratique du Congo. Après la prise de Goma et de Bukavu, la milice ne semble donc pas entendre les appels au cessez-le-feu. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni en urgence pour discuter de la situation dans le pays. La RDC continue de réclamer des sanctions contre les rebelles du M23 et le Rwanda, mais la réunion, qui a duré plus de 3 heures, s'est terminée sans décision concrète depuis New York, Lubna Anaki.
Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas.
Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères congolaise ne mâche pas ses mots. Thérèse Kayikwamba Wagner critique l'absence d'une résolution claire pour mettre fin aux violences en République démocratique du Congo. Elle réclame, je cite, « l'adoption de sanctions contre les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans cette agression, un embargo sur les exportations de ressources naturelles en provenance du Rwanda, ainsi que l'arrêt des combats et le retrait des troupes rwandaises ».
Le temps des débats théoriques est terminé. Il est temps de faire respecter les principes qui définissent cette institution. Paix, sécurité et respect du droit international. Le droit international qui s'applique à tous. Rester silencieux pendant que des civils sont tués n'est pas une solution.
Face à elle, les membres du Conseil ont reconnu l'urgence de la situation et ont une nouvelle fois dénoncé les agissements des rebelles du M23 et l'implication du Rwanda. L'ambassadeur français a évoqué un projet de résolution en discussion, mais pour le moment, aucun texte ne semble bénéficier d'un soutien suffisant pour être soumis au vote ou être adopté. Lubna Anaki, New York, RFI.
En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol, déjà en pleine procédure judiciaire qui doit confirmer ou non sa destitution, était de retour devant les juges ce matin. Cette fois, c'est la Cour pénale qui doit décider si la déclaration de la loi martiale en décembre dernier peut être considérée comme une insurrection contre l'État, un crime pouvant être puni de la peine capitale. C'est Lio Fioretti.
Cela devient presque une habitude. Les soutiens du président destitué Yoon Suk-yeol se rassemblent devant le tribunal pour dénoncer une justice corrompue. Mais désormais, ces manifestants d'extrême droite doivent être à deux tribunaux à la fois, la Cour constitutionnelle et la Cour pénale, où le président s'est rendu aujourd'hui. Pour ce manifestant, les deux procès en simultané sont vus comme une persécution.
Le fait qu'un président soit jugé dans deux procès en même temps est insensé. Et même ces procès en eux-mêmes sont absurdes. Les forces de gauche ne cherchent même plus à se cacher. Elles veulent abattre le président.
C'est la première fois qu'un président en exercice doit comparaître au pénal. Si les juges le reconnaissent coupable d'insurrection contre l'État, le président Yoon risque la prison à perpétuité ou la peine capitale. Cet autre manifestant envisage déjà de résister à la sentence.
Si par malheur il était condamné, il y aurait des résistances non seulement en Corée du Sud, mais aussi parmi nos compatriotes aux États-Unis, au Japon et ailleurs. Il faudra se mobiliser, manifester partout et tout le temps, ne pas se laisser faire.
Il y a peu de chances cependant que la peine capitale soit prononcée. La Corée du Sud ne l'a pas appliquée depuis 1997. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Lui n'est déjà plus président, mais il est bien inquiété par la justice. Jair Bolsonaro, inculpé pour un projet présumé de coup d'État pour se maintenir au pouvoir en 2022. L'ancien chef d'État brésilien qui a lancé hier sa contre-attaque. Il fustige de vagues accusations et un régime autoritaire. Lui et 33 autres suspects sont dans l'attente d'une décision de la Cour suprême sous l'ouverture ou non d'un procès. Sara Cozzolino, la défense de l'ancien président, se dit indignée.
L'avocat de Jair Bolsonaro parle d'accusations ineptes basées uniquement sur des aveux récompensés. Il s'agit du témoignage du lieutenant-colonel Mauro Cigi, ancien aide de camp de Jair Bolsonaro. L'avocat du général Walter Braganet, au colistier de l'ancien président en 2022, s'est également exprimé ce mercredi.
Cette accusation est fantaisiste. Elle est le fruit de la créativité intellectuelle du parquet.
L'acte d'accusation du parquet est tout simplement vide pour Flavio Bolsonaro, sénateur et fils de l'ancien président.
D'un côté, nous sommes très tranquilles car nous savons que Jair Bolsonaro n'a rien fait de mal. Et d'un autre côté, nous observons la mise en place d'un appareil de persécution qui utilise la machine publique pour tenter de condamner une personne innocente.
Jair Bolsonaro a toujours nié en bloc les accusations au sujet d'une tentative de coup d'État après sa défaite. Il se pose en victime d'une machination contre lui. La défense a désormais 15 jours pour soulever d'éventuelles contestations devant la Cour suprême. Inéligible jusqu'en 2030, Jair Bolsonaro espère encore faire annuler cette condamnation pour se présenter à la présidentielle de 2026. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis en France, les députés se réunissent en ce moment pour examiner le projet de la proposition de loi du député écologiste Nicolas Thiry. Objectif, interdire les PFAS, ces polluants très persistants et toxiques dans certains objets, et ce dès 2026. Ils sont considérés comme le scandale sanitaire de ce début de 21e siècle. Proposition dénoncée par les industriels, saluée par une partie de la société civile. Reportage Yang Mei et Juliette Pietraszewski.
Il attend une loi depuis de longues années. Thierry Mounib, 71 ans, président de Bien Vivre à Pierre-Bénite, près de Lyon, lutte depuis longtemps contre les PFAS. Il poursuit régulièrement des industriels en justice avec son association. Sa femme souffre d'un cancer du sein et de la maladie de Parkinson. Plusieurs de ses voisins sont morts d'un cancer, tous résidant à proximité d'une usine de chimie, Arkema, coupable donc aux yeux de Thierry Mounib. Pour lui, la France a besoin d'une loi sur le sujet.
Ce que j'attends, c'est pouvoir mettre au pied du mur les industriels. On en est à la 5e action en justice contre les industriels. Si on avait des lois et qu'on les mette au pied du mur en disant, vous voyez, là, on peut prouver que c'est le PFAS, on peut prouver que vous en utilisez, on peut les faire condamner, on peut les faire arrêter.
Si la loi est votée par l'hémicycle, ce n'est pas la fin des PFAS en France. C'est la mise sur le marché des textiles ou cosmétiques contenant des PFAS qui sera interdite. Le député écologiste Nicolas Thiry est à l'origine de cette proposition de loi.
Il y aura des contrôles qui vont aller avec. Ce sont des tirages au sort finalement d'entreprises qui mettent des produits sur des marchés qui sont testés de manière aléatoire et les amendes sont considérables. Mais en effet, je veillerai moi en tant que parlementaire dans le budget pour qu'il y ait un renforcement financier justement des organes, des moyens de contrôle.
Le gouvernement a annoncé soutenir la proposition de loi.
Et puis, nouvelle rassurante pour le pape François, hospitalisé pour une pneumonie. Le souverain pontife a passé une nuit sereine et s'est levé ce matin selon